tous égaux et à l'heure. Sur les frontons de nos mairies, trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Les mots de notre République. On a fait un sondage une année pour savoir lequel de ces mots les Français prisaient le plus, appréciaient le plus. Et devinez quoi ? Liberté à 58%. Égalité à 30%. Et fraternité, tout le monde s'en fout. 16%. Hein ? Mauvais score pour la fraternité. Enrico Macias qui chantait « Nous sommes des frères, arrêtez ça !» Il est loin. La fraternité n'intéresse personne. Mais je vais m'arrêter au deuxième, à l'égalité. C'est un slogan, enfin un slogan, oui, l'égalité, tout pour l'égalité, qui vient des révolutions, révolution américaine en 1776 et révolution française en 1789. Tous les hommes sont égaux par nature et selon la loi. Alors la révolution américaine en 1776 disait « tous les hommes naissent égaux » et la révolution française a dit « tous les hommes naissent et demeurent égaux ». Ça, c'est intéressant de rajouter qu'ils demeurent égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, l'égalité semble acquise, du moins au niveau des textes. On est égaux devant la loi, c'est évident. L'administration ne fait aucun favoritisme. Que vous soyez canois de souche ou suquetois, ceux qui habitent le suquet, là, sénégalais ou maghrébin ou suisse, femme célibataire ou chef d'entreprise, on vous traite de la même manière. C'est évident. On est tous égaux, c'est bien connu, mais comme disait George Orwell dans La ferme des animaux, il y en a certains qui sont plus égaux que d'autres. Ce qui est très ironique, vous l'avez compris, hein, quand on dit plus égaux que d'autres, on est dans l'ironie George Orwell. L'égalité est inscrite dans la loi, mais s'il y a une chose qui a été autant proclamée et aussi peu mise en application, c'est bien l'égalité. Il y a Maxime Le Forestier, il y a quelques années, j'ai pas osé voir quand c'était peut-être au XXe siècle encore, non, peut-être au début des années 2000, qui disait « Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?» C'était bien le jeu de mots. « Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?» Vous voyez, l'égalité à géométrie variable, les hommes et les femmes, par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes sont égaux, évidemment, c'est évident, mais pourquoi diable ? À valeur égale, à responsabilité égale, les femmes gagnent moins que les hommes. Alors ça progresse, il paraît, dans ce domaine, mais on n'est pas encore, on n'y est pas encore. Alors c'est juste une question d'application de la loi de l'égalité dans le texte. Nos soucis, mais dans la pratique, il y en a quelques-uns. De soucis. Et l'Église, dans tout cela, dans cette communauté nouvelle, lancée par Jésus, qui accueillait tout le monde, les collabos et les pharisiens, les prostituées et les samaritaines, les galiléens et les lépreux. On aurait pu penser que l'égalité dans l'Église n'allait poser aucun problème, mais là aussi, il y a comme un bug dans l'application de l'égalité. Dans l'Église, certains seraient plus égaux que d'autres aussi. Et c'est pour cela que j'avais envie de refaire un tour par cette parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit et utile pour redresser, pour convaincre, pour enseigner, comme dit 2 Timothée 13, the text qui nous parle d'égalité. Et c'est Galates 3, 28, la lettre que Paul écrit aux chrétiens qui habitent la Galatie. Il dit... Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. La traduction du Semeur, il n'y a donc plus de différence entre le juif et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Et il y a cette notion de différence qui s'ajoute à cette réflexion sur l'égalité. De quoi parle le texte ? De la fin des différences ? L'égalité veut-elle dire qu'il n'y a plus de différence ? Alors il faut le dire tout de suite, Paul ne cherche pas à niveler les différences à coups de phrases un peu rouleau-compresseur, on nivelle justement. Il y a d'autres passages où Paul tient compte de différences, il aura par exemple des encouragements spécifiques pour les chrétiens d'origine juive, pour les esclaves chrétiens, pour les femmes chrétiennes, des encouragements particulier qui prouve que Paul ne nie pas les différences et les besoins spécifiques des gens dans leurs différences. Mais si Paul ne nie pas les différences, il ne les fixe pas non plus. Il n'est pas un apôtre de l'immobilisme qui dirait « Toi, tu bouges pas d'où tu es, tu restes dans ta situation d'esclave sans te plaindre et tu restes dans ta condition de femme, dans sa cuisine, avec les enfants et à l'église tous les dimanches. » C'est les trois cas en allemand. Kinder, Küche et Kirche. Si Paul n'a pas bouleversé les structures existantes, il ne les a pas sacralisées non plus. Pour les problèmes de l'esclavage, par exemple, il laisse entrevoir une possibilité de changement pour Onésime, qui est un esclave enfui de chez Philémon. Et il y a une lettre adressée par Paul à Philémon. Et au verset 16, il n'y a qu'un chapitre, Paul va dire tout doucement, peut-être, à Philémon, donc le maître, peut-être a-t-il, en parlant d'Onésime, été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Et cette parole n'est peut-être pas révolutionnaire, mais quand même, elle n'en est pas loin. Elle n'annonce pas l'abolition de l'esclavage, mais elle révolutionne les relations dans l'Église entre maître et esclave. Paul propose une relation tout à fait renouvelée, celle de la fraternité en Christ, dans son Église. L'esclave n'est plus esclave, il est un frère pour le maître. Une nouvelle relation, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau quand même, et d'assez avant-gardiste à l'époque. Et cela nous ramène à notre texte de Galates 3:28, ni un texte révolutionnaire, ni un texte conservateur. Et le contexte n'est pas celui des revendications sociales dans Galates, ou des problèmes ethniques, ou des manifestations féministes. Le contexte du livre des Galates, c'est celui de la justification par la foi, de l'adoption en Jésus-Christ. Il est question de salut en Jésus-Christ dans l'Épître aux Galates. Et c'est par rapport à ce salut opéré en Jésus-Christ qu'il y a égalité, unité, c'est là qu'il n'y a plus, on ne va pas dire de différence, mais il n'y a plus de distinction, il n'y a pas de traitement préférentiel, privilégié ou discriminatoire, et cela parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est cette unité en Jésus-Christ qui va pulvériser les distinctions, toutes les barrières, tous les murs, et bien souvent les oppositions qui s'élèvent entre les cultures, entre les classes sociales, entre les sexes, c'est dans l'en-Christ que tout se passe. Le lieu de l'explosion, il est là, en Christ, un explosif de l'accueil de Dieu en Jésus-Christ. Et j'emploie l'image de l'explosion, mais je pourrais utiliser celle de la dissolution. Je m'explique, parce que ces distinctions se dissolvent dans l'eau du baptême. Il est question du baptême un petit peu avant, dans le texte, au verset 27. « Nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. » Le baptême comme étant le symbole fort du salut et de ce passage en la vie nouvelle en Christ. Et ce baptême, l'eau du baptême, c'est aussi un lieu où se dissolvent nos distinctions. Parce qu'à la conversion, dont le baptême est le symbole, on abandonne nos préjugés, nos a priori, nos distinguos, nos racismes, notre xénophobie, notre misogynie. D'ailleurs, d'après plusieurs biblistes, il est probable que ce verset de Galates 3:28 soit devenu, pour l'Église primitive, une formule que l'on prononçait lors du baptême. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni... et on baptisait. Ce qui montre d'une part l'importance de ce texte au niveau de la théologie, mais aussi son lien avec le baptême. Donc, il est clair que lorsque Paul dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, il place clairement le débat du côté du salut. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne regarde pas à la race, au niveau social, au sexe. Il n'y a pas de distinction dans l'accueil de Dieu en Jésus-Christ. Et il fallait le dire avec force sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, parce qu'à l'époque, il y avait, et encore aujourd'hui, il y en a, il y avait des murs. Il y avait des murs dans la société. Des véritables murs entre les communautés. Il y avait ce mur entre les juifs et les non-juifs, un mur énorme, tous les séparaient. Leur religion d'abord, mais aussi la vision du monde, l'éthique de la vie, les règles de pureté, par exemple, dans la religion juive, que les juifs observaient scrupuleusement, et alors que cela n'entrait pas du tout dans les pensées même du monde grec, ou du monde gréco-romain. Deux cultures que tout opposait, mais qui se retrouvaient dans la même église, l'église de Jésus-Christ. Et l'église chrétienne a dû batailler ferme, et surtout Paul, pour faire admettre qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, et que ça valait même la peine d'annoncer l'évangile aux non-juifs, parce que pour les juifs, c'était très loin de leur pensée également. Et ça a été le combat de toute sa vie, passer les barrières culturelles pour l'annonce de l'Évangile. Et en Éphésiens 2, 14, il va dire cela, c'est marqué sur l'écran, « Car nous lui devons notre paix, dit Paul en parlant de Jésus. Nous lui devons notre paix. Il a, en effet, instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. » Un autre mur, une distinction sociale, c'est esclave et libre. Milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'esclaves dans l'Empire romain, un statut social bien à part ou à part entière, mais sans la sécurité sociale. Il y avait des esclaves qui s'en sortaient très bien. Il y avait des professeurs de philosophie pour les familles riches, pour les enfants des familles riches qui étaient esclaves, donc ils s'en sortaient pas mal, mais ils étaient quand même au service d'un maître. Et les maîtres avaient des droits sur eux. Un clivage important dans la société de l'époque. Et le dernier mur, c'est entre les hommes et les femmes. Et là aussi, ce mur était énorme. Et sur ce sujet, les Juifs et les Grecs se retrouvaient. Un écrit rabbinique apocryphe, le livre du Siracide, écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ, disait, et vous l'avez aussi, c'est terrible, « Mieux vaut la méchanceté d'un homme que la bonté d'une femme. » Fallait le faire quand même. Un genre d'expression qui mène droit à la prière bien connue des pharisiens, « Seigneur, je te remercie de ne pas m'avoir fait naître femme. » Même chose du côté grec, et pire encore, en particulier les Athéniens ont battu des records de misogynie, mépris de la femme, était un art accompli chez les Grecs. Ça, c'est le contexte de l'époque, une société faite de murs de séparation, de ségrégation, d'apartheid, de cloisonnement, et c'est dans ce contexte que retentit la parole de Dieu. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Galates 3.28, pour nous dire que toutes ces différences que l'être humain a montées en mur de séparation, en distinction discriminatoire, Dieu n'en tient pas compte, il les balaie du revers de la main comme on nettoie son bureau quand il y a vraiment trop de choses. Et si on prenait une image du football, on pourrait dire que ces distinctions que nous aimons faire restent pour Dieu sur le banc des remplaçants qui ne monteront jamais au jeu parce qu'ils sont très mauvais. Et en Belgique, on disait que ces remplaçants, ils font banquette. Ils font banquette et ils restent sur la banquette. Ils ne rentrent pas au jeu. En Christ, Dieu accueille les hommes et les femmes sans distinction, et je me répète un peu, de race, de sexe, de condition, de situation, de culture, d'éducation, d'instruction, d'idées politiques. Toutes ces distinctions font banquette en matière de salut. Par contre, au banquet de Dieu, tout le monde est invité, et surtout ceux qui sont derrière les murs, ceux qui rasent les murs. Je lis avec vous cette parabole. Jésus a eu beaucoup de paraboles avec des banquets, avec des invitations à un banquet. Et quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Moi, je peux pas venir, etc. Hein. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit maître, « Va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. » Et plus qu'une déception pour le maître, il y a dans cette parabole comme un éclatement des conventions sociales, une explosion des distinctions socio-culturelles habituelles. Pour le banquet de Jésus, les distinctions communément admises ne sont pas invitées. Et j'ai cité cette parabole lors d'une autre prédication à l'église de Pau. Et il y a deux dames qui étaient là dans l'assemblée, elles sont venues nous voir, Yvonne et moi, après. Et c'était deux gitanes. Pas des Gauloises, hein, ou des gitanes, des gens du voyage. Et elles nous ont dit, elles étaient, on le voyait un peu, et elles nous disaient, nous, cette parabole nous touche beaucoup parce que nous sommes les gens le long des haies. Les gens, on n'est pas les premiers invités, mais on est ceux qui rasent les murs, qui sont le long et on a eu un moment de communion fraternelle avec ces gitanes chrétiennes, hein, qui étaient à l'église avec nous. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens protestants évangéliques parmi les gens du voyage. À Gien, par exemple, il y a des rassemblements de 15 000 chrétiens évangéliques là. Et l'association qui est la mission auprès des gitans s'appelle Vie et Lumière. Les gens le long des haies sont invités au banquet. Mais on se pose aussi la question de l'application dans la vie quotidienne ou la vie de l'Église. On a bien compris qu'il s'agissait de l'accueil de Dieu en Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, mais est-ce que ça n'aurait pas des implications dans nos relations et notre vie tout court et notre vie d'Église aussi? Est-ce que c'est juste une phrase théologique? En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Alors, il ne faudrait pas de nouveau faire dresser un mur entre la théologie et la pratique. Et la Bible elle-même fait des brèches dans le mur, elle fait des ouvertures pour permettre le passage. Ce qui est vrai pour le salut doit aussi être vrai pour la pratique ou pour la vie. Et pour la vie d'Église, je vous donne un exemple, Romains 15, verset 7, « Comme Christ vous a accueilli, dit Paul, c'est-à-dire pour le salut, accueillez-vous les uns les autres dans la vie et dans la vie d'Église. Ce qui est vrai pour le salut devient vrai aussi pour la vie et pour les relations. » Il y a là un passage énorme entre la théologie et la vie quotidienne. Et ce qui est vrai pour l'accueil en Jésus-Christ et l'accueil les uns les autres, l'est vrai pour l'égalité, cette égalité en Christ par rapport au salut, est aussi une égalité à vivre dans nos relations, dans la société et a fortiori dans l'Église qui est l'œuvre de Jésus-Christ. Imaginez que l'on dise, par exemple, à un esclave chrétien dans l'église de Rome, par exemple, qu'au niveau du salut, il n'y a plus d'esclaves au niveau du salut. Tu sais, en Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclaves, mais qu'au niveau de la vie et au niveau de la vie d'église, tu restes un esclave et tu vas passer la serpillière tous les jours dans l'église. L'esclave va se révolter et il aura tout à fait raison de le faire. Et on imagine aussi sa déception. Et il aurait raison de dire que ce qui est vrai pour le salut est aussi vrai dans la communauté des croyants. Et si je ne suis plus esclave devant Dieu, je ne le suis plus non plus dans l'Église. Et on pourrait dire la même chose de la femme. Imaginez qu'on dise à une femme, bien sûr, Galates 3:28, la femme est l'égale de l'homme. Mais il s'agit du salut. Dans l'Église, les différences subsistent et les femmes doivent s'occuper du ménage ou de l'école du dimanche. peut-être pour le chant, puisqu'il est dans leur nature de le faire, à l'homme le leadership et la prédication. Et la femme, comme l'esclave précédemment, aurait raison et a raison de se révolter. Et on la comprend. Il est incohérent et révoltant de dire que Galates 3:28 ne concerne que le salut et pas la vie de l'Église ou l'organisation de l'Église ou la vie tout court. Dans l'Église aussi, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Ce qui est vrai pour le salut l'est aussi dans la vie et a fortiori dans la vie de l'Église. La communauté de Jésus, petit schéma, égalité au niveau du salut, oui. Certes, mais petite flèche, égalité dans la vie et dans la vie d'Église, le lieu de la grâce de Dieu, de l'accueil de Dieu. Tous égaux. Et alors ? Eh bien, ça a des conséquences dans la vie de l'Église et dans ma façon de voir les autres et de les accepter et de les intégrer. Je vais changer mes lunettes et cesser de jauger l'autre selon des critères qui n'ont plus cours. Je vais me mettre à accueillir l'autre comme Christ m'a accueilli, c'est-à-dire sans faire de favoritisme, sans faire de discrimination. Je vais peut-être aussi changer, non pas seulement d'attitude ou de regard, mais aussi d'habitude, l'habitude que j'ai peut-être de ne fréquenter que ce groupe de personnes politico-religioso-économico-correctes qui me ressemblent. Je vais peut-être pouvoir m'ouvrir à d'autres cultures, je vais inviter d'autres personnes à partager mon univers et je vais m'intéresser à leur univers ou à leur sous-culture. Je vais me réjouir si telle ou telle personne que je m'attendais pas peut-être à voir ici à cause de mes a priori, je vais me réjouir de voir telle personne prendre des responsabilités dans l'Église en fonction de ses dons, toujours je vais l'encourager, je vais même lui tendre la main comme Philémon l'a fait, enfin en tout cas on l'espère, à Onésime comme un frère. Je vais me réjouir qu'une femme prêche. Je vais me réjouir que des femmes soient consacrées pasteurs dans notre union d'église. Je vais me réjouir que Géba Taboyan, pasteur de l'église de Valence, soit devenue présidente de la commission synodale de notre union d'église. Et je vais m'en réjouir non pas parce qu'on aurait atteint la parité ou on aurait fait une certaine alternance homme-femme, non pas parce qu'on a suivi le vent de la société, mais je vais me réjouir parce qu'on applique le principe d'égalité de Galates 3:28. Réjouissez-vous de l'égalité. Alors, moi je termine. On pourrait se demander comment il est possible de vivre cette égalité dans l'Église, on se connaît. On sait qu'on est très doué naturellement pour construire des murs. On veut bien chasser le naturel, mais il reviendra très vite au galop. Eh bien, la Bible nous dit d'aller nous rhabiller, de simplement revêtir l'homme nouveau qui est en Christ. Peut-être faut-il passer par une certaine, j'avais dit une petite, mais il faut, par une certaine repentance. Et regarder nos habits et voir s'ils n'ont pas pris un petit peu de poussière. Nos vieux schémas, nos vieilles habitudes, nos stéréotypes. Et puis se rhabiller de neuf. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. J'avais intitulé ce passage, souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, je crois. Changer de garde-robe. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme, dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à une pleine connaissance. Et vous observez la suite. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que le Christ qui est en tous, qui est en tout et en tous. C'est fou le lien. Revêtez-vous d'un homme nouveau, renouvelez votre vision des choses, tout cela en Christ, pour que vous puissiez vivre l'égalité dans votre vie, dans la vie d'Église. Et vous avez remarqué que ce nouveau vêtement se renouvelle Donc tous les espoirs sont permis, ils se renouvellent constamment. Dieu est à l'œuvre pour renouveler nos vêtements et nous permettre de vivre cette nouvelle humanité où l'égalité n'est pas juste proclamée, mais où elle est vécue au quotidien et peut-être même défendue. Une égalité non seulement proclamée, mais vécue au quotidien, voire même défendue. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers frères, mes chères sœurs, comme on dit, de vous battre pour l'égalité dans notre pays ? Dans l'Église, évidemment, mais c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que nous pourrions faire, chacun pour soi, chacun autour de soi et en Église, pour lutter contre les inégalités ? On a étudié avec Aventure Formation les petits prophètes comme Agée, Zacharie, et on s'est aperçu qu'il y avait des paroles de jugement, mais aussi des paroles d'encouragement, en tout cas pas de défaitisme ni de résignation, en particulier pour Agée et Zacharie, hein, devant le temple à reconstruire, alors qu'il y a une montagne de débris. « Ne méprisons pas les petits commencements », dit Zacharie au chapitre 4. Eh bien, que le Saint-Esprit nous renouvelle et renouvelle notre vision du monde et des gens qui nous entoure. Alors je sais qu'il y a beaucoup de combats encore à mener, il y a le combat écologique, il y a le combat éthique, il y a le combat de la paix dans le monde, mais il y a aussi celui-là, le combat pour l'égalité. Que la grâce nous accompagne, que la grâce de Dieu nous accompagne, et on en a bien besoin. Amen.